Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Colombie, plongée dans l'incertitude, l'impasse après le référendum du 2 octobre dernier, par lequel les Colombiens ont rejeté l'accord de paix signé quelques jours plus tôt à Cartagène entre le gouvernement et la guérilla des forces armées révolutionnaires. Regard sur les raisons de cet échec, sur ce que révèle cette défaite dans un contexte politique extraordinairement polarisé, comment comprendre aussi l'attribution du prix Nobel de la paix au président Santos. Le processus de paix va-t-il pouvoir être sauvé et à quelles conditions? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Sophie Boulot, coordinatrice Colombie pour Amnesty International. Bonjour.
Bonjour.
Jacobo Grajales, maître de conférence à l'université Lille 2, auteur de La Terre entre guerre et paix, politique foncière et sortie de crise en Colombie, aux études du CERI, et auteur également de Gouverner dans la violence, les paramilitaires en Colombie, Cartala, aux éditions Cartala, un livre publié en mai 2016. Bonjour.
Bonjour.
Et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
L'accord signé entre le gouvernement colombien et les FARC est en suspens, donc, depuis son rejet le 2 octobre dernier, lors d'un référendum marqué par une abstention record de plus de 62%. C'est évidemment un échec pour le président Santos, qui s'est tout de même vu attribuer le prix Nobel de la paix. On essaiera de comprendre les raisons de cette attribution. Le président Santos se démène maintenant pour tenter de sortir de l'impasse. Il a décidé de se tourner vers la deuxième guérilla en activité en Colombie, l'Armée de Libération Nationale, l'ELN, une guérilla castriste avec laquelle des conversations devraient s'ouvrir à partir du 27 octobre à Quito, en Équateur. Première question, est-ce que et en quoi ce dialogue va-t-il permettre de faire bouger les choses? Jacobo Grajales.
Oui, alors ce dialogue est effectivement une stratégie, me semble-t-il, de la part du gouvernement pour tenter une sortie vers le haut, si l'on peut dire. C'est cependant une stratégie risquée, car cette guérilla a des caractéristiques très différentes de celles des FARC. Il s'agit d'un mouvement beaucoup plus fragmenté, à la hiérarchie moins forte, aux formes d'ancrage sur le territoire également différentes, et il n'est pas certain que ces pourparlers puissent avancer rapidement.
Maurice Lemoine.
J'ajouterais peut-être une chose, c'est que il s'est également exercé une très très forte pression sur l'ELN. Je crois que pour la première fois dans les secteurs de la gauche colombienne qui ne sont pas délibérément hostiles au mouvement d'opposition armée, il y a eu une très très forte pression sur l'ELN, sur le discours. Vous ne pouvez pas, alors qu'on est en train éventuellement de sortir du conflit avec les FARC, rester à l'écart dans la mesure où l'on sait très bien qu'on a parlé de la paix qu'on espère tous en Colombie ne sera présente que le jour où il n'y aura plus ni les FARC, ni l'ELN, ni les paramilitaires, où l'État aurait été quelque peu démilitarisé. Donc il y a encore un long travail à faire, mais effectivement la gauche a adressé un clair message à l'ELN.
Alors, on poursuivra sur cette question de l'ELN peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, et dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que on se penche sur le référendum, sur ce rejet du processus de paix, malgré donc cette abstention de 62%. Alors, est-ce qu'il y a trois forces en Colombie, les partisans du non, les partisans du oui, et ceux qui se sont abstenus, qui finalement laissent à d'autres le choix de décider? Quelle lecture en faire? Comment analysez-vous les uns les autres ce rejet du processus de paix par référendum? Est-ce qu'il s'agit d'un refus de la paix, d'un rejet de l'accord avec les FARC? Jacobo Grajales.
Alors, au lendemain de l'élection, l'une des analyses qui ont été couramment évoquées dans la presse a été celle de le pays qui est victime de la violence a voté pour le oui, le pays qui voit la violence à la télé a voté pour le non. Cette analyse doit cependant être nuancée. En réalité, lorsqu'on regarde, on va voir dans les territoires comment ont voté les gens, on voit que finalement il y a deux variables qui expliquent réellement le vote. Une première variable, c'est l'ancrage des partis qui se sont mobilisés pour le non, tout simplement, notamment du vote uribiste. C'est-à-dire que...
Du nom de l'ancien président, le prédécesseur de l'actuel président Santos.
Tout à fait. Et donc, c'est-à-dire que la campagne, enfin, ce succès du non s'explique d'abord par une mobilisation réussie de ces acteurs politiques. Deuxième élément explicatif, le caractère périphérique de certains territoires, des territoires où l'État est très peu présents, des territoires qui se sentent abandonnés et où les citoyens ont considéré que ces accords de paix pouvaient être porteurs d'investissements, d'une meilleure présence étatique, de services publics, etc. Donc dans ces territoires, effectivement, les gens se sont mobilisés. Cependant, dans des territoires très frappés par la violence, les gens ont aussi pu voter non. Donc on n'a pas encore fini d'analyser réellement les ressorts sociologiques de ce vote.
Alors, Maurice Lemoine, vous partagez ce que vient de dire Jacob Grajales, ensuite on peut...
En partie, oui, mais il y a une conjonction de facteurs en réalité. Il y a eu d'abord la campagne des secteurs qu'on va appeler uribistes, donc pour reprendre vos termes, qui sont opposés aux accords de paix pour des raisons très très précises sur lesquelles on reviendra sans doute ultérieurement pourquoi est-ce que Uribe en particulier s'attaque au problème de la justice transitionnelle et s'attaque au problème de la participation politique des FARC. Après, vous avez d'autres facteurs. Il y a eu, moi, ce que j'appelle la trahison de l'Église catholique.
C'est-à-dire...
un poids extrêmement important en Colombie et qui ne s'est pas prononcé, qui est resté neutre. Or, sur un problème aussi grave que la paix en Colombie, effectivement, il y avait un devoir moral, de mon point de vue, de se prononcer en faveur de la paix. Il y a eu par ailleurs le poids des églises évangélistes, qui sont un secteur extrêmement important en Amérique latine. On a vu le rôle dans le renversement de Dilma Rousseff au Brésil, mais également en Colombie, sur une thématique complètement ahurissante, qui nous rappelle des débats stupides qu'on a ici en France sur l'idéologie de genre. C'est-à-dire que dans les accords de paix qui ont été passés entre le gouvernement colombien et les FARC, figure la notion d'égalité entre les hommes et les femmes, de protection des femmes, de protection des homosexuels, des transsexuels, etc.
En fait, le débat a complètement dérivé.
Complètement. On a répondu à côté de la question. Donc vous mettez tout ça ensemble avec un facteur qui est pas inhérent à ce référendum, qui est inhérent à la vie politique en Colombie d'une abstention massive, 60%, c'est la norme, et vous avez un résultat qui ricraque, c'est 50,2%, mais l'inverse aurait pu être possible, et c'était la même situation très incertaine.
Alors, oui, il y a aussi certains observateurs qui précisent que dans des régions reculées, très rurales, auparavant, dans des scrutins précédents, les candidats mettaient à disposition des pirogues pour que les électeurs puissent se déplacer, et que là, on les a pas vus, les pirogues. Bon, voilà. Donc, il y a aussi ça. Donc, sur un scrutin qui s'est joué à très peu... Ça peut faire la différence aussi.
Bien sûr, donc des électeurs qui n'ont pas pu aller voter. Je voudrais revenir sur les débats qui ont dévié. Maurice Lemoine l'évoquait à l'instant. J'ai presque envie de comparer d'une certaine manière ce référendum en Colombie avec le référendum qui a eu lieu au printemps dernier en Grande-Bretagne, le fameux Brexit. Il y a eu beaucoup de mensonges et des choses qui ont été dites qui sortaient totalement du débat. Alors là, il y avait effectivement ces questions de genre qui sont venues s'insérer dans une question autour d'un accord de paix. Enfin, tout ça est complètement dévié. C'est vrai que les politiques de communication sont parties, pour certaines, dans des directions totalement inattendues, Jacobo Grajales.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu une conjonction de plusieurs clivages et que les partisans du non ont su justement jouer de ces clivages. Vous avez mentionné cette question du modèle de la famille traditionnelle et effectivement, il y a eu la mobilisation de l'église, des églises évangéliques, le silence qu'évoquait Maurice Lemoine de la part de l'église catholique. Les partisans du non ont su agréger un certain nombre de clivages, des clivages de société, des clivages économiques également. On observe par exemple dans les chiffres que l'on a sur la ville de Bogota, que dans les quartiers populaires qui ont été pourtant qui ont reçu un investissement, une action sociale importante sur la dernière décennie de la part des mairies de gauche qui se sont succédées dans cette ville, les gens ont voté massivement dans certains de ces quartiers pour le non. Et lorsque on a cherché à comprendre ce vote, certains journalistes ont interrogé des votants et on a vu que les gens, ils avaient peur que finalement la politique sociale qui allait être mise en place pour les démobiliser des FARC ne se fasse au détriment de la politique sociale qui avait été développée pour eux. Cette crainte était évidemment alimentée par le discours des partisans du non, mensonger comme vous le soulignez.
Maurice Lemoine.
Oui, il y a un élément supplémentaire, on en sait un petit peu plus, puisque y compris un espèce de mini-scandale qui secoue la Colombie depuis la fin de ce plébiscite, c'est que l'un des membres de l'équipe d'Alvaro Uribe, comment dire, le financier de la campagne d'Uribe, qui s'appelle Juan Carlos Vélez, dans une interview, raconté qu'en fait, le centre démocratique d'Alvaro Uribe ne s'est pas du tout cantonné sur les accords, mais a joué sur les émotions. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une campagne que, en gros, 45 millions de dollars ont été récupérés auprès de 30 entreprises et 30 particuliers pour organiser cette campagne. Donc, on est à côté des accords. Et il y a un élément sur lequel, je crois, il faudrait aussi se polariser, c'est sur les médias. Mmh. Évidemment, la situation colombienne, le conflit en Colombie a créé une polarisation très très forte dans la société, y compris dans une partie des classes moyennes urbaines qui ont vécu dans les années 80-90, ce qu'on a appelé las pescas milagrosas, les pêches miraculeuses, les enlèvements, etc. Bien. Cela étant, les négociations ont duré pendant 4 ans, et ça n'empêche pas un certain nombre de médias colombiens, je pense aux chaînes de télévision qui sont très importantes, comme RCN, comme Caracol, de continuer à employer la terminologie d'une guerre totale contre la narco-guérilla, les narco-délinquants, les terroristes, aujourd'hui encore. C'est-à-dire que le grand public, alors qu'on est en train de négocier la paix, est abreuvé de clichés, ça n'exclut pas le thème des droits de l'homme, dont on parlera sans doute tout à l'heure, mais de clichés qui cantonnent la guérilla dans le rôle du méchant absolu. Et donc, évidemment, ça joue sur une partie de l'opinion.
La journaliste du Monde rapporte, elle cite par exemple quelqu'un qu'elle a interviewé dans les rues de Bogota qui dit « J'ai voté non parce que je ne veux pas que la Colombie tombe dans les griffes de l'athéisme, du communisme et du pouvoir homosexuel. » Bon voilà, avec un chauffeur de taxi qui dit « Je veux pas voir les homos arriver au pouvoir. » Donc on imagine un peu le niveau de désinformation. Des gens sont convoqués aux urnes pour réagir sur la paix et ils vont pas y aller pour ça.
Alors, pour en revenir à la question de la polarisation de la société et les raisons pour lesquelles Uribe... Alors, peut-être il faut pour nos auditeurs reposer la situation. L'actuel président Santos est au pouvoir depuis 2010. Il a succédé au président Uribe. Il était lui-même, Monsieur Santos, ministre de la Défense d'Uribe. On se retrouve donc aujourd'hui entre les partisans d'Uribe et les partisans de Santos sur cette question des accords de paix. Qu'est-ce que l'on peut dire des perdants et des gagnants, finalement, suite à ce référendum, Jacobo Grajales?
Alors, le premier gagnant, c'est sans doute Álvaro Uribe, puisqu'il se retrouve de nouveau au centre du jeu politique colombien. Parmi les gagnants, on trouve également les secteurs les plus conservateurs du spectre politique, le parti conservateur, bien évidemment, mais un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de ce parti.
Qui avait beaucoup à perdre, pardonnez-moi, je vous interromps, d'un oui au référendum et d'un oui à l'accord de paix. C'est ça qui est important aussi d'approfondir un petit peu, des propriétaires terriens qui n'ont pas très envie de voir...
Tout à fait. Alors c'est un parti, le centre démocratique, le parti d'Uribe, le parti conservateur également, ce sont des partis qui représentent une élite foncière qui s'est d'ailleurs mobilisée ces derniers mois contre le processus de restitution de terres aux victimes de la violence, qui est en marche depuis quelques années, de manière très timide pour l'instant, et qui voit dans ces accords de paix une menace contre le modèle agro-industriel, qui est celui en marche en Colombie, qui est d'ailleurs soutenu très fortement par l'actuel pouvoir.
Maurice Lemoine.
Alors à ce point-là, il faut ajouter, mais alors là on rentre dans un long débat. Le point central, me semble-t-il, c'est la justice transitionnelle. C'est le point sur lequel Álvaro Uribe ne veut absolument pas entendre parler, à tel point que le 11 octobre, le Centre démocratique a sorti un document de 26 pages pour proposer de modifier les accords de paix. Et d'une manière très significative, on trouve un certain nombre de points. Par exemple, il faudrait que l'accord final ne soit pas incorporé, comme il est prévu, à la Constitution avec un caractère non modifiable. C'est-à-dire qu'en gros, on dit à la guérilla, ok, on passe un accord avec vous, mais peut-être que dans 2 ans, on va le remettre en cause. C'est déjà un point d'achoppement. Mais surtout, ce que veut Uribe, c'est supprimer la juridiction spéciale pour la paix. C'est-à-dire, en fait, c'est la reconnaissance à la fois des victimes, mais en même temps de ce qu'on appelle en Colombie los victimarios, c'est-à-dire les coupables. Contrairement à ce que dit le Centre démocratique, il n'y a pas d'impunité prévue dans la justice transitionnelle. C'est-à-dire que chacun devra aller témoigner devant cette justice. Avec un point qui gêne beaucoup, on va dire la droite extrême ou l'extrême droite, c'est que non seulement vont devoir témoigner les guérilleros, les militaires, les paramilitaires, mais également les membres de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les gens qui ont financé la guerre, qui ont financé le paramilitarisme, et ça, Uribe n'en veut pas. Il n'en veut absolument pas, parce qu'évidemment, on va retrouver des connexions qui sont déjà connues entre Uribe et l'extrême droite colombienne. Donc il demande à ce que la juridiction spéciale soit remplacée par une juridiction transitoire qui serait dépendante de la justice commune. Bon. Et par exemple, point extrêmement intéressant, la compétence de cette cour de paix sur les particuliers et les membres de la force publique ne pourrait être que s'ils se présentent de façon volontaire. Alors que dans les accords de paix, on dit tout le monde doit venir témoigner et rendre la justice et la vérité aux victimes. Il y a donc des points centraux. Bon, on vient d'évoquer le problème de la terre. Il est évident que si tout le monde vient témoigner, on va avoir un certain nombre d'éléments sur qui possède la guerre qui a été confisquée dans le cadre de cette guerre. Il y a 6 millions de déplacés, il y a environ 6 millions d'hectares de terre. Évidemment, si tout le monde parle, on va découvrir que là où aujourd'hui il y a des plantations de palmes africaines, auparavant, c'est l'endroit d'où ont été chassés les paysans, et on va découvrir qui a profité de la guerre. Donc ça, Uribe n'en veut absolument pas.
Jacobo Grajales, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Maurice Lemoine?
Oui, tout à fait. Sur le plan économique, et notamment sur le plan des agro-industries, ce point souligné par Maurice Lemoine sur les informations qui pourraient sortir dans le cadre de ce système de justice transitionnelle, ce point est particulièrement gênant pour un certain nombre d'acteurs. Car, et c'est un point clé, me semble-t-il, des dernières années en Colombie, un certain nombre d'acteurs qui ont profité de la guerre ont réussi leur reconversion vers le monde des entreprises tout à fait légales, soit par des jeux d'entreprises façades ou de prête-nom, soit tout simplement parce que il y a eu énormément d'acteurs aussi opportunistes qui ont profité de la baisse des prix de la terre dans des zones frappées par la violence, ou alors du départ des paysans chassés de leurs terres, et du besoin dans lequel ces paysans étaient de vendre leurs terres pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a aujourd'hui un système en Colombie dans lequel la spoliation de la terre issue du moment le plus dur, par exemple, du paramilitarisme, s'est poursuivie par des voies plus pacifiques, par des voies légales en partie, et un processus qui montrerait les connexions entre ces entreprises et des acteurs violents pourrait potentiellement mettre en danger justement la façade que un certain nombre d'acteurs ont réussi à construire.
Parce que pour mémoire, la question de la terre, elle est précisément à l'origine du conflit et de la lutte armée des FARC il y a plus de 50 ans, Jacobo Grajales. Donc voilà, l'idée c'est tout de même que le problème est toujours au même point, 50 ans après, différemment.
L'action de la terre est au centre de la mobilisation des guérillas. Elle est au centre également de la création des groupes paramilitaires, puisque ces groupes ont été créés généralement par des acteurs, des propriétaires fonciers, dont certains avaient également participé également à l'économie de la drogue à la fin des années 70, début des années 80, et qui avaient peur justement à cette époque qu'un accord de paix avec les FARC n'aboutisse à une réforme agraire, à une mise en cause de la structure des inégalités dans l'accès à la terre en Colombie. Donc, effectivement, la question de la terre n'explique pas tout, c'est évident, mais elle est au centre des dynamiques de violence en Colombie.
Maurice Lemoine, un petit rajout pour terminer cette première
un
partie de l'émission.
Non, on est, je crois qu'on est en gros d'accord sur l'analyse. Sur ce qui peut se passer, on va en parler plus tard, il y a une remobilisation du camp de la paix. Ce qu'on peut dire, c'est que l'avancée vers la paix est sans doute irréversible. En tout cas, il faut l'espérer. Mais il y a un acteur de poids dont on n'a pas parlé, ce sont les États-Unis.
Justement.
Les États-Unis ont été très impliqués dans la guerre, voilà. En particulier à travers le plan Colombie qui a été passé lors d'une négociation précédente où l'on peut dire que aucun des deux belligérants n'était très chaud en fait pour signer la paix, pas plus les FARC qui étaient en position de force à l'époque avec des défaites retentissantes de l'armée. Pas plus que le président Pastrana qui, voyant son armée en faiblesse, a en fait négocié pour en même temps aller à Washington récupérer à l'époque 1,6 milliard de dollars du plan Colombie pour remoderniser l'armée colombienne. Donc là, on est passé à une autre phase où on a un président qui, parce que, je termine, parce que vous m'avez demandé d'être courte avec un petit message subliminal, tout le monde sait en Colombie en particulier Santos, qui a été ministre de la Défense, qu'il n'y a pas de sortie militaire à ce conflit. Et que donc poursuivre le conflit ne permettra pas à la guérilla de l'emporter, ne permettra pas à l'armée de l'emporter, mais en revanche, évidemment, continue, perpétue la souffrance du peuple colombien.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Maurice Lemoine, Sophie Boulot et Jacobo Grajales, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Colombie plongée dans l'incertitude après le référendum du 2 octobre dernier par lequel les Colombiens ont rejeté l'accord de paix signé quelques jours plus tôt à Cartagène entre le gouvernement et la guérilla des forces armées révolutionnaires. Nous retrouvons nos invités, Sophie Boulot, coordinatrice Colombie pour Amnesty International France, Jacobo Grajales, maître de conférence à l'université Lille 2, auteur de La Terre entre guerre et paix, politique foncière et sortie de crise en Colombie, aux études du CERI, également gouverné dans la violence, le paramilitarisme en Colombie, paru aux éditions Cartala en mai 2016, et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine. Sophie Boulot, vous souhaitiez revenir sur la question de la terre, dont on peut rappeler qu'elle a été à l'origine du conflit et de la lutte armée des FARC, et on disait avec Jacobo Grajales que finalement les choses n'avaient pas beaucoup évolué depuis.
Non, pas assez. Et effectivement, à Amnesty International, nous partageons tout à fait cette analyse sur le fait que la question de la terre est au cœur de ce conflit et est au cœur des principales violations de droits humains qui se produisent. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la dynamique de paix que nous saluons, que nous encourageons, bien sûr, braque les projecteurs sur elle. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que les attaques ciblées contre des civils continuent, malgré le cessez-le-feu qui est de fait en vigueur depuis une année, en fait, et officiel depuis quelques mois, et que nous avons donc des groupes armés qui ont un modus operandi qui est tout à fait comparable aux milices paramilitaires. En gros, ce sont des paramilitaires, même si le gouvernement les appelle Bakrim, des bandes criminelles. Et ces milices, elles agissent, c'est ce que nous montrent toutes les enquêtes que nos chercheurs mènent sur le terrain, par des intérêts économiques pour contrôler des territoires qui sont le plus souvent occupés par des populations autochtones, des communautés afro-colombiennes et paysannes, pour s'accaparer des terres et leurs richesses, donc des richesses minières, hydrocarbures, agro-industrie, grands projets industriels, voilà. Donc, il y a eu cet accord de paix le 26 septembre. Nous, le 11 septembre, nous, donc, alors que, déjà, on était tout à fait dans l'annonce officielle, on ne savait pas encore que, bon, il y aurait le nom, mais on faisait un rapport pour alerter l'opinion sur le fait qu'il y avait, par exemple, le 11 septembre, Nestor Iván Martínez, qui est membre du conseil communautaire d'un village dans l'état du César, et qui est responsable du Congrès des Peuples, qui a été abattu. Ça, c'est le 11 septembre. Le 29 août, on a trois responsables d'une ONG, Comité d'intégration du massif colombien, qui sont abattus par un groupe d'hommes armés. Dans la dernière semaine d'août, on a quatre membres d'une communauté indigène qui sont abattus. Et l'ONG colombienne Somos Defensores déplore au moins 35 défenseurs de droits humains et leaders sociaux tués au cours des premiers mois de 2016.
Donc un climat de violence, c'est cela que vous nous dites, continue, Sophie Boulot, qui continue et que rien ne semble pouvoir arrêter.
Alors, et qui est indépendant du conflit armé, c'est ça aussi, qui est dans cet contexte, mais qu'on ne peut pas directement imputer au conflit armé. Donc ce que nous disons à Amnesty, c'est attention, pendant la dynamique de paix, il faut continuer à bâtir l'état de droit, à le faire respecter, faire justice, et y compris pour ces questions d'accès à la terre, qui concentrent les plus grosses violations de droits humains.
Ce que j'entends, vous souhaitez peut-être réagir, Maurice Lemoine, c'est que en Colombie, aujourd'hui, tout le monde n'a pas intérêt à la paix.
Ce qui vient d'être soulevé, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'en gros, on envisage, à court terme, à moyen terme, la démobilisation des guérilleros. Il est évident que si ces ex-guérilleros n'ont pas la certitude de pouvoir vivre en sécurité, ça va poser un problème. Or, l'histoire colombienne regorge de précédents. Et il y en a un que tous ceux qui connaissent la Colombie ont en mémoire, c'est évidemment ce qui s'est passé dans les années 80 avec une tentative d'accord de paix avec le président conservateur Belisario Betancourt, où un cessez-le-feu a été signé avec les FARC, où on a donné en gros un an aux FARC pour créer un parti politique qui, avec d'autres forces colombiennes de gauche, le Parti communiste, etc., des forces très diverses, ont fondé un parti qui s'appelle l'Union patriotique, qui, lors de leur première participation électorale en 1986, ont connu des résultats finalement assez encourageants, puisqu'ils ont eu 14 représentants au Congrès, 5 sénateurs, 9 députés, 23 maires de villes intermédiaires, et a été mis immédiatement en place, et là nous revenons sur les Bakrim ou les paramilitaires, un plan d'extermination, Baile Rojo, le bal rouge. Et à l'époque, on a eu assassiné 2 candidats à la présidence, 3 sénateurs, 3 députés, 6 députés départementaux, 89 conseillers municipaux, 9 maires, en gros 4000 personnes. Ce précédent plane sur le conflit colombien et sur toutes les négociations qui ont eu lieu depuis. Donc évidemment, si le gouvernement ne s'attaque pas d'une manière résolue à ce problème des Bakrim, des bandes criminelles émergentes, qui sont liées à des intérêts locaux hein, et qui sont liées également au narcotrafic, parce que le Colombie malheureusement demeure le premier producteur mondial de cocaïne, on ne peut pas penser, imaginer, résoudre le problème. Et y compris, il faut dire que c'est avec un certain courage que les membres des FARC envisagent la démobilisation, parce que tout le monde sait que cette menace pèse sur eux.
Jacobo Grajales, un commentaire?
Oui, le point sur le trafic de drogue est très important parce que l'économie du conflit reste finalement en place. Elle est créatrice d'emplois, si on peut utiliser ce vocabulaire, de professionnels de la violence. Et ces professionnels de la violence, pendant très longtemps, ont été, par exemple, les groupes paramilitaires qui se sont partiellement démobilisés entre 2003 et 2006. Les groupes qui ont des caractéristiques très similaires, même s'il y a un ancrage politique et social différent qui existe actuellement. Et finalement, tant que l'État colombien n'aura résolument mené une politique dans les zones marginales de présence directe, non seulement militaire, mais aussi institutionnelle et sociale, et tant qu'il n'aura pas été en mesure de proposer des choses aux populations qui habitent ces zones marginales, et in fine, tant qu'il n'aura pas changé son mode de gouvernement historique qui consiste à déléguer le contrôle de ces zones à des autorités locales, qu'on les appelle notables locaux, groupes paramilitaires ou autres intérêts économiques, tant que ça n'aura pas changé, la violence restera le mode principal de gouvernement dans ces régions marginales.
Et alors, pourquoi est-ce que tout cela est si difficile à établir, Jacobo Grajales?
Déjà, je pense qu'il y a une profondeur historique de ce mode de fonctionnement. L'État colombien, dont on a souvent dit qu'il était faible, moi je crois pas trop à ce vocabulaire, je pense que surtout il a un mode de fonctionnement par la délégation, par la décharge, historiquement. Eh bien, changer ce mode historique est très compliqué. Ça va à l'encontre des intérêts des élites politiques et économiques locales, ça va à l'encontre de l'approche aussi que les élites politiques ont eues de leur pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un État qui a des capacités fortes, mais qui sont totalement concentrés et qui ne connaît pas son territoire, ignore une bonne partie des problématiques qui accablent la population.
Un État faible, Sophie Bolot.
Oui, un État faible et une police parfois un petit peu trop forte. Il y avait en juin dernier des manifestations paysannes, des gens qui réclament une réforme agraire digne de ce nom, droit à l'éducation, la santé, et que les exploitations minières ne se fassent pas en spoliant les gens de leurs terres. 180 manifestants blessés, 3 morts. Donc nous, Amnesty, on dit, voilà, il faut que justice soit faite sur ce genre de cas. Il faut que déjà les gens puissent manifester tranquillement et sans être tués. Sinon, c'est toujours la terreur qui continue.
Maurice Lemoine. Alors,
on se rend bien compte qu'on est au cœur du problème. Hein. Tous autant qu'on est, enfin on est 3, on revient sur le problème de la terre. Alors première chose par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la présence d'une opposition armée porte préjudice à l'opposition civile ou démocratique dans la mesure où tout opposant, tout syndicaliste, tout défenseur des droits de l'homme est immédiatement assimilé à la guérilla. Dans ce sens, un accord de paix potentiel va effectivement ouvrir la vie politique colombienne, puisque on ne pourra plus accuser la gauche, en l'occurrence il s'agit de la gauche, d'être subversif par définition. Après, sur ce problème de la terre, évidemment, on est dans le cadre de cette négociation de paix dans des contradictions permanentes. C'est-à-dire que ce n'est pas un accord de paix parfait, tout le monde en est conscient. Je vais prendre un exemple.
Pourtant, on le dit comme un modèle de sortie de conflit.
Il est particulièrement intéressant. Il est particulièrement approfondi. Il y a 296 pages ou 297
300,
pages.
300, oui, même.
Hein, voilà, bon. On a, en gros, 4 thèmes. La réforme rurale intégrale, la participation politique, les cultures illicites. C'est là-dessus que je vais m'arrêter. Et la justice traditionnelle, le droit des victimes. Cultures illicites, on le sait. Les FARC, la narco-guérilla, la cocaïne, la coca, etc., etc., etc. Il est prévu dans cet accord qu'on va s'attaquer au problème des cultures illicites, y compris la guérilla, qui a été longtemps et souvent accusée de narco-guérilla. Il faut éradiquer les cultures illicites. La question, c'est est-ce que le gouvernement colombien ou les gouvernements colombiens qui viennent vont être capables d'offrir aux paysans, à la paysannerie colombienne, de zones reculées, sans voie de communication, autre chose à faire que de semer la coca. Parce que avec ou sans les FARC, Si demain, la paysannerie colombienne n'a pas la possibilité de vivre décemment, tout naturellement, elle cultivera de la coca. Hein, c'est-à-dire qu'on est au cœur aussi de problèmes économiques. Or, on le sait, le projet du gouvernement du président Santos, c'est un projet néolibéral. Et là, on a une opposition entre, pas forcément entre uniquement les FARC et le gouvernement, mais entre les bases sociales, les mouvements populaires, paysans en particulier, qui soient d'ailleurs en phase ou pas en phase avec les FARC, on a une opposition entre ce que réclament un certain nombre de mouvements, qui sont des zones de réserve paysanne, dans lesquelles on aurait en gros une culture de subsistance, un peu on va faire la différence entre la FNSEA et puis la Confédération Paysanne, et puis les grands projets du gouvernement, qui lui veut répandre l'agrominerie, hein, c'est-à-dire l'agro-industriel, dans lequel les paysans deviennent des salariés, des grands patrons, et puis le développement à travers les mines. Donc, indépendamment de la fin du conflit, on continuera à avoir des conflits sociaux à tel point que le gouvernement Santos vient d'annoncer, a annoncé il y a quelques semaines plutôt, qu'il allait renforcer l'ESMAD. L'ESMAD, ce sont les forces anti-émeutes colombiennes, en prévision, alors qu'à l'époque on pensait déjà à l'accord de paix, des futurs conflits sociaux en Colombie.
Voilà, c'est l'ESMAD d'ailleurs qui a blessé 180 personnes et tué 3 indigènes en juin dans les manifestations. Voilà.
Alors, est-ce que, plusieurs questions pour terminer, oui. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Est-ce que finalement le prix Nobel de la paix donne à Santos davantage de poids pour tenter de résoudre cette question du conflit avec les FARC et autres mouvements de guérilla en Colombie? L'explication géopolitique aussi du refus, peut-être quelques instants. C'est un accord, l'accord de paix qui était soutenu par Cuba et le Venezuela. Il était apparu aussi comme principalement voulu par les États-Unis, dont on dit qu'ils souhaitaient accroître leur influence sur le continent à travers notamment la Colombie. C'est un point. Et quels sont les scénarios possibles pour le président Santos? Tout ça, 3 questions donc pour terminer cette émission. Jacobo Grajales.
Bon, le prix Nobel de la paix, effectivement, il a sans doute été donné à Santos comme une manière de l'encourager, mais en même temps de lui faire pression, un petit peu comme le Nobel de la paix à Obama il y a quelques années. Je suis pas convaincu que ça lui donne un capital politique très important, parce que là, les choses actuellement se jouent vraiment avec des enjeux très très ponctuels, dont on a souligné la plupart ici. En revanche, je pense que la suite des choses va se jouer sur la capacité du président Santos à négocier séparément avec les différents porteurs du non. Et je pense qu'il parie sur sa capacité à isoler politiquement Uribe, ce qui est un pari plutôt risqué, mais qui pourrait éventuellement marcher, car les conservateurs, le parti conservateur qui a soutenu donc Uribe dans cette lutte contre les accords de paix, et finalement, le Parti conservateur pourrait se négocier plus facilement, pourrait trouver des accommodements et être dans une logique d'échange aussi, échange notamment de postes bureaucratiques. Là, il y a plusieurs grands postes à l'intérieur de l'État qui vont se décider dans ces prochaines semaines. Celui de l'inspecteur général qu'on appelle en Colombie le procurador général, qu'il ne faut pas traduire par procureur, qui est un personnage extrêmement puissant et durant des années ce poste a été occupé par quelqu'un de très très puissant au sein du camp conservateur. Donc le parti conservateur pourrait rentrer dans cette logique de marchandage. Uribe, quant à lui, je pense qu'il pense déjà à 2018.
L'élection présidentielle.
Tout à fait. Après, il est difficile de se prononcer là-dessus. Il est certain que le camp de Santos sort affaibli, mais une signature d'un accord de paix, d'une version remaniée de ces accords de paix, remettrait ce camp sur les rails. Donc, on peut difficilement se prononcer aujourd'hui sur la suite.
Alors, pour aller plus loin, est-ce que finalement la pacification de la Colombie est repoussée à des horizons incertains, Maurice Lemoine?
La réponse, personne ne l'a. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde pariait sur le oui au plébiscite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Juan Manuel Santos a eu le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire qu'en fait, son nom a été prononcé bien avant cet événement du 2 octobre et tout le monde pensait qu'il allait l'emporter. Donc il ne l'emporte pas. Après, si... Évidemment, on n'a pas envie trop de plaisanter avec un sujet aussi grave que celui-là, mais si je plaisantais un peu, je me dirais qu'il faudrait un deuxième tour au plébiscite. Parce qu'en gros, il faut se souvenir que lors de l'élection présidentielle de 2014, au premier tour, Juan Manuel Santos est arrivé second derrière le candidat du Centre démocratique, soutenu par Uribe, Oscar Iván Zuloaga, Zuloaga est arrivé second. Et c'est seulement au deuxième tour, avec le renfort des voix de la gauche, modéré, parti communiste, etc., qui l'a emporté. Et on se rend compte que le 15 juin 2014, au deuxième tour, des presque 8 millions de voix qui ont voté Santos, seulement 3 200 000 avaient voté pour lui au premier tour. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, devant cet électrochoc du non au référendum, s'il y avait un deuxième tour, je ne sais pas si c'est possible, on en parle parfois, on parle d'une réforme de la Constitution, personne ne sait trop pour le moment comment se tirer de ce mauvais pas, mais il y aurait d'un seul coup une prise de conscience, et vraisemblablement, donc le processus va sans doute continuer à avancer. C'est dans quelles conditions, on ne sait pas. Jacobo a raison, l'un des enjeux principaux de ce débat, c'est aussi la prochaine présidentielle. Ça remet le président Uribe au centre du débat. Avec, là j'apporterai un bémol, parce que ça c'est une chose qu'on a entendu, ça n'a pas été dit là, hein, mais qu'on a entendu pendant des années sur Uribe, l'homme le plus populaire de Colombie, Uribe, le candidat... Non, attendez, il ne faut pas exagérer. Le camp du non l'a emporté avec 50,2% des voix, avec 60% d'abstention, c'est-à-dire la moitié de 40%. C'est-à-dire que Uribe est soutenu par 20% de la population, et si on enlève les églises fondamentalistes, etc., c'est beaucoup moins que ça. Simplement, il a un cœur de cible, un cœur d'électorat qui lui est extrêmement fidèle. Bon. Donc effectivement, le jeu du président Santos, ça va être de casser cette alliance de circonstances, sachant par ailleurs, il faut le dire, qu'il y a un certain nombre de points qui remet en cause Uribe dans les accords de paix, qui pour les FARC ne sont pas négociables. En particulier, la justice traditionnelle et la participation politique. La participation politique, j'en dis juste un mot, on a prévu que pendant 2 législatures, il y aura 10 membres des FARC au Congrès sans droit de vote, hein, mais avec la parole. Quel est l'argument? Parce qu'effectivement, on peut dire, après tout, un groupe qui a, on n'en a pas parlé, mais qui a violé le droit humanitaire international, pourquoi est-ce qu'ils auraient des représentants comme ça? La logique, c'est que ça remplace les députés et sénateurs qui avaient été élus dans les années 80 au nom de l'Union patriotique et qui ont été exterminés. Donc c'est une espèce de réparation. Et donc là, évidemment, le président Santos est coincé. Sa principale négociation aujourd'hui, c'est avec Uribe. C'est plus tellement avec les FARC. Hein, les FARC ont établi des limites.
Et justement, est-ce qu'ils peuvent s'entendre, Uribe et Santos, à 2 ans de l'élection présidentielle, et peut-être aussi revenir très rapidement, Sophie Boulot, je ne sais pas si vous souhaitez, 62% d'abstention sur ce référendum et sur un sujet aussi important que la question de la paix en Colombie. Pour conclure, ça pose question.
Ça pose la question de la démocratie, qui est un tout, qui est les médias, l'éducation. Si vous voulez, quand des chauffeurs de taxi vont vous dire « Ah oui, non, il va y avoir que des PD au pouvoir. » Bon, mais voilà, la démocratie, c'est aussi faire en sorte que tout le monde ait accès à des informations, une culture, un esprit critique. Bon, voilà, donc ça, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais enfin, c'est un tout. Bon, pour revenir sur cette question de où va... Peut-être que la Colombie Santos pourrait peut-être convoquer plus tôt cette assemblée constituante prévue dans les accords de paix pour peut-être réouvrir les cartes politiques et redonner une nouvelle force politique qui, elle, aura la légitimité de renégocier des accords et de... Voilà.
Juste une petite correction. L'Assemblée nationale constituante n'est pas prévue dans les accords de paix. C'est ce que réclamaient les FARC au départ. Et ils vont finalement renoncer sous la pression de Santos, qui voulait un plébiscite dont tout le monde avait souligné les dangers. En revanche, la négociation est en train de démarrer maintenant avec l'Armée de Libération Nationale, l'ELN, et eux aussi réclament une Assemblée Nationale Constituante. Donc on va voir comment tout ça va s'articuler.
Alors rapidement, vous êtes optimiste, Jacobo Grajales?
Pas vraiment. Je pense qu'il y a des risques énormes. Un groupe de guérilla dans l'attente de ce qui va se passer, et en face, un gouvernement qui fait face à des oppositions très diverses.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci Sophie Boulot, coordinatrice Colombie pour Amnesty International France. Jacobo Grajales, maître de conférence à l'université Lille 2, auteur de La Terre entre guerre et paix, politique foncière et sortie de crise en Colombie, paru aux éditions Les Études du Série, et également auteur de Gouverner dans la violence, le paramilitarisme en Colombie, aux éditions Cartella, paru en mai 2016, et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain spécialiste de l'Amérique latine. Maurice Lemoine.
Si vous me permettez juste ma petite page de pub, oui. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Sur les eaux noires du fleuve, qui raconte la plus grosse bavure des FARC en Colombie, qui est l'affaire de Borjaya, où il y avait eu 90 morts et des centaines de blessés.
Aux éditions
Don Quichotte.
Merci Maurice Lemoine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission Cinéma et France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux pays émergents dans un contexte de ralentissement généralisé de la croissance. À demain.